radio-classique.fr.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des toilettes. 2 milliards et demi de personnes n'ont pas accès à des toilettes décentes, dont 1 milliard n'a pas du tout accès à ces lieux d'aisance. Ça pose des problèmes sanitaires, mais aussi de dignité humaine. Alors, comment améliorer l'assainissement, faire appliquer ce droit humain reconnu par les Nations Unies en 2010 dans le monde? On va en parler avec nos invités. Yves Remot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Yves Remot, vous êtes ingénieur hydrologue, président de l'ONG Toilettes du Monde. Mario Santi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur eau et assainissement chargé de mission au GRET, qui est une ONG et un centre de recherche sur le développement. Et d'ailleurs, vous avez passé 2 ans et demi au Burkina Faso. On verra avec notre correspondant en Inde quels sont les progrès réalisés dans ce pays qui s'était fixé un cap ambitieux, mettre fin à la défécation à l'air libre en 2019. Autant dire que c'est demain, nous verrons où on en est. Parce que pour convaincre les habitants d'utiliser des toilettes, il faut de la proximité, il faut de l'hygiène, il faut de la sécurité. Et puis bien sûr, il faut aussi une somme accessible. Et quant à vous les voisins, appelez-nous sans pudeur pour nous dire quelle est la situation chez vous, quelles sont les initiatives communautaires. N'attendez pas la fin de l'émission. Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone. WhatsApp pour nous laisser des messages écrits. En fin d'émission, l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, portrait de la Kenyane Lucy Muchoki. Elle a lancé son entreprise d'exportation de thé et de plantes médicinales. Et elle dirige le consortium panafricain pour l'agrobusiness et l'agro-industrie. Je vous lis des messages postés sur nos réseaux sociaux sur le sujet. Évidemment, les auditeurs témoignent d'un malaise en cette journée mondiale des toilettes. Aladdin, qui a 26 ans, qui est à Conakry en Guinée, dans certaines localités, 9 familles sur 10 utilisent une seule toilette. Les gens utilisent un pot pour leurs besoins et s'en débarrassent la nuit. Ozana est un auditeur au Tchad. Ici, c'est la honte, nous dit Ozana. On fait nos besoins en brousse, la défécation à l'air libre est notre habitude. Jean-François est un voisin congolais et il nous dit qu'en RDC, les gens posent leur matière fécale partout. Dans les plantations agricoles, les entreprises doivent penser à construire des latrines. On construit bien des maisons pour les travailleurs, mais pas de toilettes, sauf pour les directeurs. Ça vous rappelle quelque chose, Yves Remot, non? Effectivement.
Un exemple, par exemple, au Burundi, on a été sollicité pour installer des toilettes dans les écoles. Dans 30 écoles de la ville de Gitega, c'est la deuxième capitale après Bujumbura. Et bien effectivement, quand on dialoguait avec le ministère de l'éducation, le ministère nous reconnaissait honnêtement qu'il avait des budgets à minima pour construire des bâtiments, mais pas pour construire des latrines. Et on lui disait, mais c'est déplorable. Et il disait, on préfère construire plusieurs écoles sans latrines plutôt que quelques-unes avec latrines.
Ouais. Voilà. C'est dire où on en est sur ce débat. Mzé à Kigali, au Rwanda, pas très loin du Burundi, chez nous, dans certains quartiers de Kigali, une ville moderne, je le rappelle, en tout cas, affichée comme telle, on les appelle Banyaye, ce qui veut dire ils défèquent en Kinyarwanda. L'accès aux toilettes avec siège est un déterminant social. On les trouve dans les quartiers riches, dans les hôtels, dans les bars VIP, mais l'écrasante majorité de la population utilise les toilettes à la turque. Le problème, c'est la densité des maisons construites sans plan d'urbanisme. La vidange de ces toilettes est donc impossible. Quand la fosse est pleine, on creuse à côté, mais ce n'est pas durable, vous confirmez, Marion Santi?
Oui, une des grosses évolutions qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'on s'est rendu compte que construire des toilettes, c'est bien, c'est essentiel, mais il faut aussi s'occuper du reste. À un moment, ces toilettes sont pleines, il faut les vider, il faut traiter cette matière de manière hygiénique, avoir des stations de traitement, éventuellement de valorisation.
Et c'est tout un réseau d'assainissement qu'il faut penser, et c'est là où forcément on a besoin des autorités publiques. Conan est à Abidjan, il nous dit qu'en Côte d'Ivoire, les toilettes publiques sont quasi inexistantes ou sales. Les hommes préfèrent étaler leurs braguettes à tous les coins de rue sans aucune pudeur. Quelle humiliation, s'exclame Conan. Dimo est une voisine à Libreville. Alors elle, c'est une maniaque des toilettes. Elle dit, moi j'ai grandi avec des toilettes. Mais souvent ici, des gens habitent des maisons modernes, mais c'est sale. Ils les utilisent, mais ne les nettoient pas. Une fois, j'avais plus de produits d'entretien. J'ai carrément nettoyé avec du gel douche. Les toilettes, ça sert à être à l'aise, nous précise Dimo. Voilà, appelez-nous maintenant pour qu'on comprenne mieux votre vision des toilettes et quelle est la situation chez vous. 33 1 84 22 71 71. Vous nous appelez en direct. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission pour témoigner et dialoguer avec nos invités Yves Remeau et Mario Santi.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Qu'est-ce qui fait qu'une famille décide d'investir dans des toilettes, Marion Santi ?
Eh ben, le premier facteur, il faut qu'elle en ait les moyens. C'est généralement un facteur déterminant. Évidemment, il y a une grosse question d'avoir conscience du besoin de toilettes. Donc on voit qu'il y a eu énormément de travail dans tous les pays, hein, de sensibilisation. On a des projets de sensibilisation en milieu scolaire, mais aussi des ménages. Donc les gouvernements s'emparent de la question. Mais une fois qu'on a conscience du besoin, il y a d'autres barrières. Il faut être capable de se payer des toilettes. Il faut qu'il y ait une offre disponible. Si j'habite quelque part où personne n'est capable de me construire des toilettes hygiéniques, qu'est-ce que je fais ? Donc il y a de multiples barrières à franchir avant de réussir à...
Les tarifs pour se construire des toilettes ?
Ça va être très variable d'un pays à l'autre. Donc vous le disiez, j'ai travaillé au Burkina Faso. On va avoir des gammes de toilettes qui vont être construites les moins chères pour une soixantaine d'euros, les plus chères pour 200, 300 euros. On a d'autres pays où pour avoir une toilette de base, hein, vraiment le plus simple possible, je pense à Djibouti, il faut débourser plus de 1000 euros.
Pourquoi c'est si cher à Djibouti ?
Parce que c'est un pays qui dépend énormément de l'importation pour tout. Absolument tous ces produits finalement. Et la ville de Djibouti repose sur un socle rocheux. Donc il est extrêmement difficile de creuser. Il faut construire de manière surélevée. Ouais. Ça demande une quantité de matière très vite, très importante.
Donc on arrive à des machines.
Voilà, on arrive à des tarifs.
Yves Remeau, est-ce que globalement la situation s'améliore malgré le tabou ?
Oui, je crois que c'est l'occasion de cette journée aujourd'hui à la fois de dénoncer des manques, mais en même temps de dire que la situation s'améliore pour plusieurs raisons. Une raison purement politique, c'est que plusieurs pays, petit à petit, s'emparent de la problématique, légifèrent, réfléchissent, déterminent des politiques et mettent les budgets en face. Ça n'est pas suffisant, mais ça existe. Une autre raison, c'est que la technologie s'améliore. Les designs de toilettes se modernisent, de la recherche fondamentale existe. Je lisais récemment qu'en Afrique du Sud, des chercheurs ont réussi à faire des briques de construction avec de l'urine, en reproduisant un mécanisme naturel de concrétisation du sable. Donc effectivement, on peut dire que la situation s'améliore, mais ce serait très maladroit d'être trop optimiste, ce serait très maladroit d'être très pessimiste. Il faut être calme sur la situation en se disant oui, il y a des choses qui s'améliorent.
Alors, c'est vrai qu'il y a des pays où il y a une vraie volonté politique, notamment par exemple le Sénégal. On a construit beaucoup de latrines ces dernières années, mais en même temps, on voit bien qu'il reste des poches très importantes de problèmes. À Tambacounda, on n'a que 36% des ménages qui n'auraient pas accès du tout aux toilettes. Ça reste très important, donc dans les zones rurales. Il y a des pays qui encore vous répondent à vous, les spécialistes de l'assainissement et des toilettes. Ce n'est pas une priorité, notre priorité, c'est la santé.
Oui, au Gabon, par exemple, quand vous discutez avec les autorités sanitaires, ils vous disent vos problèmes de maladies diarrhéiques et de choléra endémiques, qu'on connaît bien, que ce soit dans des villes comme Port-Gentil ou Libreville, on les connaît, malheureusement.
Qui sont liés à l'absence de toilettes.
Exactement. Mais les autorités sanitaires ajoutent immédiatement, nous avons des budgets prioritaires contre le sida et contre le palu. Donc contre le sida, on fait des campagnes, contre le palu, on a d'autres stratagèmes, et vous, vous arrivez en troisième position. Donc on n'a pas beaucoup de sous pour vous. Voilà le type de réponse qu'on reçoit quand on monte des projets, et qu'effectivement, on va à la pêche, pardonnez-moi l'expression, à la pêche au financement. Alors, c'est ça la vraie question pour nous.
Une famille qui se dote de toilettes, qu'est-ce que ça lui procure comme type de gain, le fait d'avoir des toilettes aujourd'hui ? Ça a été calculé par des organisations internationales, Marion Santi.
Alors, une famille va avoir plusieurs types de gains. Alors, il va évidemment le gain de santé. Paradoxalement, ce n'est pas forcément ce qui va la pousser en premier à s'équiper de toilettes.
Quand vous dites le gain de santé, on est moins malade, donc on a moins besoin d'acheter des médicaments, on a plus de facilité à travailler si on n'est pas immobilisé, etc. C'est ça, hein ?
Tout à fait. Et paradoxalement, finalement, on ne s'aperçoit pas quand notre santé s'améliore. Donc ce n'est pas pour cette raison-là qu'on va d'abord acheter des toilettes. Mais c'est aussi, donc vous le disiez en début d'émission, c'est un enjeu de dignité. Pouvoir bénéficier d'intimité, de sécurité. Ça peut être en milieu rural, par exemple au Burkina, en pays subsaharien, ne pas risquer de se faire mordre par des serpents parce qu'on va déféquer en brousse. Les auditeurs en parlaient. En milieu urbain, notamment pour les femmes, il y a des risques d'agression très, très hauts.
Sexuelle.
Parce qu'on doit s'éloigner de la maison pour trouver un coin discret pour se soulager. Donc tous ces facteurs-là, une fois qu'on a des toilettes, ça sont ressentis comme un grand bénéfice par les ménages.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, c'est la journée mondiale des toilettes. On donne la parole à un auditeur, Denis Athanase, qui nous appelle de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Bonjour Denis Athanase.
Bonjour.
Denis Athanase, vous avez dit au Standard que les toilettes, c'est aussi parfois, voire souvent, des sources de conflits entre voisins.
Exactement. C'est souvent des sources de conflits. Souvent, chez nous, il y a deux cas de figure qui reviennent souvent. Il y a par exemple le voisin qui est présent et qui ne peut pas les aider. Et il y a beaucoup de choses qui sont voisin.
Alors, on a un problème de ligne téléphonique, on ne vous entend plus du tout, Denis Athanase, j'en suis absolument désolée. Je vais lire votre témoignage, parce que vous dites que les voisins n'ont pas souvent de toilettes, sont obligés de demander à d'autres voisins. Et puis également, soit le voisin creuse ses toilettes de fortune juste à côté de la fenêtre de la chambre ou de la salle à manger de son voisin, avec tout ce que ça peut entraîner, évidemment, comme désagréments, odeurs, mouches, etc. Et puis également, quand il pleut, c'est l'occasion pour beaucoup de vider leurs toilettes dans la rue, nous dites-vous, pour profiter des rivières artificielles créées par l'eau de pluie. Et d'autres n'ont pas besoin de les vider dans les quartiers inondés. Elles se remplissent d'eau de pluie, débordent et inondent le voisinage. On voit bien quand même qu'aujourd'hui, les témoignages de nos auditeurs nous disent les toilettes, on n'en parle pas, mais c'est un problème permanent finalement, non, Yves Remeau ?
Oui, vous parlez d'inondation, vous parlez de ce problème très technique. C'est vrai que il faut mettre l'accent sur la question technique. C'est l'ingénieur qui parle, qui fait peut-être un peu de la déformation. Au Gabon, à Port-Gentil. Port-Gentil est une ville qui est plate et où la nappe est affleurante. Nappe affleurante, excusez le jargon, mais ça veut dire qu'effectivement, l'eau qui sert pour les puits dans les maisons, l'eau est affleurante et elle... L'eau n'est pas que l'eau, exactement. Donc effectivement, comment font les gens ? Les gens construisent des petits édicules en briques, en hauteur, et mettent trois marches pour monter et font leurs besoins dans ces trous. Mmh. Ces trous, malheureusement, sont en communication avec le sol, mais n'arrivent pas à s'infiltrer, encore une fois, à cause de la présence de la nappe. Donc là, que fait-on ? Eh bien, effectivement, il faut penser à des solutions nouvelles. Et là, il s'agit là de proposer ce que nous, on a mis en place, ce sont des toilettes sèches, avec derrière des problèmes de maintenance, des problèmes de contraintes d'entretien, etc. etc. Donc, il y a, effectivement, dans le domaine de l'assainissement, une variété, on l'a dit tout à l'heure, sur l'inégalité des citoyens à travers le monde devant la bonne méthode de réaliser des toilettes efficaces.
Et du fait, effectivement, du terrain sur lequel on se trouve, c'est vrai aussi que les localités sont aussi prisonnières de ces données de terrain. Marion Santi, vous avez travaillé, le GRET a mis en place des premiers toilettes dans les marchés à Madagascar. Qu'est-ce que ça apporte quand il y a tout d'un coup des installations sur des lieux publics qui sont en même temps des lieux d'économie importants ?
Oui, alors finalement on s'aperçoit que les toilettes publiques marchent principalement dans des lieux de passage pour des raisons économiques. Donc les lieux principaux, ça va être les marchés ou les gares. Puisque finalement, on est en transit, on a besoin d'avoir accès à des toilettes publiques. Et du coup, on a une amélioration de l'environnement sanitaire dans le périmètre de ce lieu de passage intense. Donc, plutôt qu'à chaque fois qu'un bus s'arrête, tout le monde part, s'éparpille dans la ville, essaye de trouver un coin derrière une maison, provoque des nuisances pour le voisinage, on a un établissement qui peut être géré et être une source de revenus pour un opérateur économique.
Ça veut dire donc que ces toilettes sont payantes ?
Ces toilettes sont payantes.
Une somme accessible ?
Voilà, on réfléchit justement sur la capacité à payer des usagers pour qu'on leur propose un tarif qui soit acceptable, supportable et qui en même temps assure la rentabilité du service puisqu'on veut quelque chose qui perdure.
Je renchéris sur ce que dit Marion. Effectivement, nous à Toilettes du Monde, on a plusieurs exemples de réalisation de toilettes publiques, que ce soit à N'Djamena, que ce soit à Libreville, j'oublie d'autres exemples, mais à chaque fois... On démarre notre étude sur cette capacité à payer et en général, on constate que les quelques sous qu'il faut donner pour faire ses besoins suffisent à non pas amortir les bâtiments qui sont en général sur d'autres budgets, mais à faire fonctionner, c'est-à-dire à rémunérer la personne qui va entretenir et à s'occuper de la maintenance, c'est-à-dire curer les fosses quand il le faut. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça correspond vraiment à un besoin, précisément dans les marchés et dans les gares routières, les gens sont solvables et ils acceptent, parce que sinon, c'est épouvantable. La défécation à l'air libre sur des lieux publics comme ça, c'est une catastrophe. Donc, effectivement, ça correspond à un besoin et on arrive à équilibrer le budget d'entretien de ces établissements. On peut même y adjoindre des douches, car souvent c'est une requête additionnelle, les personnes pour se laver les mains ou voire même pour se nettoyer. Alors ensuite on tombe sur des questions culturelles intéressantes. Faut-il faire un seul bloc ou deux blocs, un pour les hommes, un pour les femmes? On s'adapte aux réalités culturelles.
Pour les latrines, vous voulez dire là?
Pardon?
Pour les latrines, hein,
pour les
toilettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle qui émerge dans les quartiers pauvres, c'est vraiment le modèle des toilettes publiques payantes, où on paye à chaque fois, plutôt que de favoriser des installations de toilettes au maximum dans les habitations?
Pas nécessairement. Ouais. Ça va vraiment être très dépendant du contexte culturel. J'ai deux exemples diamétralement opposés. À Haïti, en contexte post-tremblement de terre, on s'est dit, finalement, on a besoin d'un accès à l'assainissement rapide pour tout le monde. Le plus simple, c'est faire un bloc sanitaire dans un quartier d'habitation. Et finalement, on s'est aperçu que les douches étaient très utilisées dans ce bloc sanitaire, mais pas les toilettes, parce que ce n'était absolument pas acceptable culturellement d'être vu en train d'aller aux toilettes par tout le quartier. Par contre, dans d'autres pays, alors nous, on n'y intervient pas, mais d'autres ONG y interviennent. Au Bangladesh, c'est habituel, justement, de partager ses toilettes avec ses voisins et d'être vu en train d'aller aux toilettes. Donc, il existe déjà des blocs sanitaires, pas nécessairement dans des très bonnes conditions, pas forcément bien entretenus, mais c'est déjà accepté culturellement.
La question culturelle, elle est en fait centrale pour ces projets d'installation de toilettes. Et c'est pas seulement de la tuyauterie et de la relation avec les pouvoirs publics.
Bien sûr, elle est fondamentale. Détail technique, la pratique en milieu musulman de la toilette anale. Pour nous, c'est une dimension qui n'est pas négligeable par rapport au choix de la toilette sèche, qui interdit de... Bon, donc là, on a été confronté à cette...
Qui interdit de mettre du papier, c'est ça, vous voulez dire?
Voilà, c'est ça, oui. Donc, on a conçu des systèmes de sièges à séparation, d'urine et de matière fécale, et des toilettes anales. Donc, effectivement, cette dimension, elle n'est pas insurmontable. Il faut simplement que nos sociologues, quand ils enquêtent au démarrage des projets, soit conscient de ce type de situation.
Il y a des sociologues qui travaillent à l'initiative, donc sur ces projets d'installation sanitaire. Il faut bien le préciser, c'est dire quand même si les pratiques doivent être bien comprises. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour dialoguer avec nos invités. Dites-nous quelle est la situation chez vous en cette journée mondiale des toilettes. Window screens, winter morning sunrise. Everywhere I look, I see excitement on their faces. With their passion, they're pursuing their love lives. I dream of scenery to watch people helping and caring, holding homeless ones. Helelema, 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 helelema.
never scroll the park. Trees are green, birds migrating above. Children everywhere are playing free of care, not knowing clueless of the times to come. Everywhere I look, Christmas spirit everywhere. Haven't seen you for too long, too long. Seasons, greetings everywhere. Happy New Year, everyone. Prosperous beginnings, eh?
MXO et The Peppercorns chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI en cette journée mondiale des toilettes. On essaye de comprendre aujourd'hui quels sont les freins, évidemment financiers, mais pas que, à l'installation plus généralisée de toilettes. Je vous le disais en début d'émission, près de 2 milliards et demi de personnes dans le monde qui ont des installations tout à fait défaillantes. 1 milliard qui n'ont pas du tout accès à des toilettes et qui donc défèquent à l'air libre. Alors qu'en est-il en Inde? D'abord, je vous redonne le numéro de téléphone du standard 33 1 84 22 71 71 pour nous appeler, pour nous parler de la situation chez vous. Et direction l'Inde, où le Premier ministre indien Narendra Modi a lancé une mission titanesque il y a 4 ans maintenant, construire des toilettes pour tous les Indiens afin de mettre fin d'ici 2019 à la défécation en plein air. Alors on en parle avec notre correspondant en Inde. Bonjour Sébastien Farsi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Le gouvernement affirme être sur le point d'atteindre son objectif, puisque 2019 c'est demain. Alors qu'en est-il ?
Eh bien justement, en effet, il affirme que près de 9 millions de toilettes ont été construites donc en 4 ans. Le ministère de l'Hygiène assure que donc 96% des villages indiens sont suffisamment équipés maintenant pour que les habitants n'aillent plus faire leurs besoins en plein air. Le Premier ministre Narendra Modi, vous le disiez, en a fait ça une mission personnelle. Il a consacré un budget colossal de près de 5 milliards d'euros sur 5 ans à cette tâche. Ce n'est pas le premier gouvernement, il faut le dire, à s'atteler à cette tâche, mais la progression est notable car en 2014, lors du lancement du programme, seulement un tiers des villages étaient correctement équipés et un Indien sur deux faisait alors ses besoins dans les champs. Ce qui avait des conséquences graves sur la santé, contamination des sols, des nappes phréatiques, manque d'hygiène qui entraînait bien sûr des diarrhées et la malnutrition des enfants. Et les femmes, elles, obligées de sortir la nuit pour se soulager, étaient souvent agressées. L'UNICEF estime que chaque foyer rural indien peut économiser jusqu'à 800 euros par an en frais médicaux et en congé maladie, rien qu'en utilisant des toilettes.
Mais ces bons résultats affichés par les autorités semblent contestés aujourd'hui en Inde ?
Oui, tout à fait, oui, Emmanuel, car le gouvernement met tellement de pression sur les autorités locales pour remplir cette mission d'ici à l'année prochaine que ces dernières gonflent les chiffres. Un centre de recherche a été vérifié il y a 2 ans ce qu'il en était sur le terrain et sur un échantillon de 7500 foyers choisis, l'équipe n'a pu identifier en fait que 20% des foyers. Les autres noms étaient soit erronés, soit ils étaient en double sur les listes du gouvernement. Parmi ceux qu'ils ont pu contacter, un tiers n'avait en fait pas de toilette, un tiers d'autres de ceux qui eux en avaient affirmé qu'elles étaient inutilisables, ces toilettes, par manque d'eau ou de système d'évacuation, ce qui fait que seulement 10% des foyers prétendument équipés utilisent vraiment des toilettes au lieu d'aller faire leurs besoins en plein air. C'était il y a 2 ans, donc, cette recherche donc, d'un centre indépendant. Un autre problème est que les aides publiques d'environ 200 euros pour la construction des toilettes n'est pas toujours déboursée et les foyers généralement pauvres doivent donc s'endetter pour les construire. Les autorités locales, en plus, utilisent des moyens coercitifs pour remplir leurs objectifs. Dans certains endroits, on a constaté que les familles qui n'ont pas construit de toilettes ne peuvent plus recevoir l'aide alimentaire publique qui constitue pourtant une ligne de survie pour ces familles pauvres.
Oui, c'est pas forcément la bonne méthode. Alors, malgré cela, on commence à avoir des améliorations sur la santé des foyers qui se sont équipés en toilettes, Sébastien Farsi.
Oui, tout à fait. Alors, on se rend compte bien sûr que tout cela prend du temps, mais certains progrès ont été notés. Un sondage qui a été réalisé l'année dernière pour le gouvernement et par la fondation Bill et Melinda Gates sur 4000 foyers révèlent que dans les villages totalement équipés de toilettes, eh bien les diarrhées d'enfants sont 30% moins élevées que dans les villages non équipés. Le nombre d'enfants qui comptent des vers dans les selles est de 43% moins élevé. Et tout cela permet aux enfants de mieux digérer les aliments et de grandir plus sainement, car dans les villages qui ont des toilettes, il y a 30% d'enfants moins mal nourris en moins. Donc une meilleure nutrition, une meilleure digestion, bien sûr. Cette étude montre que donc la formule est bonne, il faut juste qu'elle soit vraiment adoptée par les familles et pour cela changer également les mentalités indiennes, car beaucoup de foyers ruraux continuent à considérer que c'est impur de faire ses besoins à l'intérieur de sa maison.
Merci beaucoup Sébastien Farcy en direct de New Delhi. En Inde, très bonne journée à vous. Yves Remot, Marion Santi, vous êtes avec nous. Yves Remot, vous êtes ingénieur hydrologue, président de l'ONG Toilettes du Monde, et Marion Santi, ingénieur eau et assainissement, chargé de mission au GRET, hein, une ONG, un centre de recherche sur le développement. Comment vous réagissez par rapport à cette politique indienne qui est quand même, pour le moment, un semi-échec ou une semi-réussite? Je ne sais pas comment on regarde le verre à moitié vide, à moitié plein, Yves Remot.
Bon, ce que l'on peut retenir de ce témoignage intéressant, c'est que quand même, l'assainissement, comme toutes les infrastructures, devrait être une réalité, une obligation régalienne des autorités. Nous, effectivement, nous classons les pays un petit peu entre ceux qui sont très bien équipés sur le plan politique, genre Sénégal, qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis d'autres pays où malheureusement, les objectifs politiques ne sont pas aussi bien définis. Je vais donner un exemple de ce qui se passe, par exemple, à Kinshasa. Kinshasa, je ne voudrais pas faire honte aux autorités kinoises, mais malheureusement, certains quartiers périphériques de la ville de Kinshasa sont complètement en déshérence politique. C'est-à-dire que le gouvernement a renoncé ou n'a pas été en mesure d'amener des infrastructures, qu'elles soient infrastructures vières, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité. Ce sont les associations de quartier. Et nous, à Toilettes du Monde, on a actuellement un projet assez gratifiant. Nous avons été sollicités par des associations de quartier en charge de la distribution de l'eau, donc qui ont tout un protocole pour fournir de l'eau à travers des bornes fontaines à des familles, selon une petite, contre une petite rémunération, eh bien, ces associations veulent passer à la vitesse supérieure.
Qui se substitue d'ailleurs à la régie d'eau, hein, et parfois avec de meilleurs résultats d'ailleurs, exactement, pour un prix similaire avec une meilleure qualité d'eau.
Vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est gratifiant, encore une fois, c'est de voir que ces associations qui sont structurées sur le plan social, qui connaissent très bien les familles à qui elles apportent ce service, se disent, eh bien, maintenant, on va étoffer nos connaissances et on va passer à l'assainissement. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ces associations nous demandent un appui à la fois technique, à la fois tarifaire, à la fois financier, à la fois technologique, pour devenir des associations non pas dédiées que à l'eau potable, mais également à l'assainissement. Voilà un résultat intéressant.
Marion Santi.
Oui, alors moi, ça me fait penser... J'ai deux aspects qui se disputent. C'est à la fois une très bonne chose, parce qu'il y a une vraie volonté politique de s'emparer de la question, donc c'est rassurant, et il faut qu'il y ait d'autres pays embrayent le pas. Alors effectivement, la méthode semble très discutable, puisque je pense que faire du chantage à l'aide alimentaire n'est pas la bonne méthode pour
le cas de l'Inde.
Pour le cas de l'Inde. Et en même temps, le cas de l'Inde illustre bien à quel point c'est un enjeu de santé publique absolument crucial, puisque dans une diminution de 30% des cas de diarrhée chez les enfants, on rappelle que chez les enfants de moins de 5 ans, c'est une cause de mortalité. Donc c'est absolument nécessaire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Inde a mis de l'argent sur la table. Un discours qu'on entend bien trop souvent, je pense par exemple à la Mauritanie, on parlait du Sénégal, c'est l'objectif qui se donne aussi à moyen terme, c'est que les ménages soient les seuls responsables de leur équipement en assainissement et l'investissement repose uniquement sur leurs épaules.
C'est pas viable,
selon C'est pas vous. Viable. C'est pour moi absolument absurde. Dans les pays riches et dans les centres urbains riches, on subventionne l'assainissement. Quand on fait un réseau d'assainissement, c'est pris en charge par les pouvoirs publics. Donc on subventionne l'assainissement des riches, mais un ménage rural qui a peu de moyens, ou un ménage pauvre en milieu urbain, c'est la même question, on va lui dire, débrouillez-vous tout seul, vous devez être capable de payer votre équipement en assainissement tout seul comme des grands.
Ça donne des fosses qui débordent et ensuite on ne sait pas quoi en faire. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On vous donne la parole. C'est la journée mondiale des toilettes.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Une voisine nous appelle de Dakar, Sarah, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
Vous êtes en direct, on vous écoute sur la Journée mondiale des toilettes.
Oui, Emmanuel, j'aimerais bien vous parler des toilettes amovibles qui ont été créées à Dakar.
Des toilettes, des toilettes amovibles, juste, de quoi oui. s'agit-il exactement, Sarah?
C'est des toilettes qu'on déplaçait pendant les événements et tout.
Oui.
Qu'on posait dans des endroits bien précis.
Oui.
Mais il y a quelque temps, je ne les vois plus.
Et donc, vous vous demandez pourquoi, si c'est une pratique qui a été abandonnée, vous aviez le sentiment que c'était plutôt un progrès?
Oui, c'était un progrès parce que Emmanuel, c'est vraiment. On voyait des murs qui étaient complètement usés et tout.
Merci Sarah de nous avoir appelé. Alors Yves Remeau va vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il concernant ces toilettes amovibles?
Alors effectivement, on a découvert le concept de toilettes amovibles, de toilettes sèches effectivement qui sont transportables, mais je connais pas le détail du contexte de Dakar. Ce qui est sûr, c'est que dans certaines circonstances, sur des zones urbaines précaires, plutôt que de construire en dur des toilettes qui sont appelées à être démantelées au moment où le quartier sera reconstitué, effectivement, on préfère le principe de la toilette mobile. Alors ça, cette toilette mobile, on la connaît en France.
Concrètement, ça va où, en fait?
Alors ensuite, il faut effectivement une équipe de maintenance. On récupère la matière qui s'est accumulée et elle est épandue dans une zone de dépotage, dans une décharge spécialisée, pour effectivement ensuite être éventuellement valorisé avec de l'agricompostage. Donc effectivement, ce concept de toilette mobile est utile dans des zones de précarité. Nous, ici, en France, on a découvert que, compte tenu de la fragilité de certains camps de migrants, de certains camps de Roms, de certains bidonvilles, il était préférable, en anticipant une éventuelle démantèlement de ces camps, de proposer des toilettes mobiles. Mmh. Et donc, effectivement, technologiquement, on sait le faire. Dans les festivals, hein, on a effectivement des batteries de toilettes mobiles pour des périodes de 3, 4, 5, 6 jours.
Vous faites bien de donner l'exemple de la France, ça peut peut-être étonner nos auditeurs. Il y a plus d'un million de personnes en France hein, qui n'ont pas accès à de l'assainissement et qui donc n'ont pas de toilettes. Vous confirmez, Yves Remeau?
C'est tout à fait exact,
vous,
effectivement.
Vous citiez les camps de Rome, les gens qui n'ont pas d'habitat, les habitats insalubres également.
Effectivement, la terminologie a varié, mais il faut revenir à des termes qui sont malheureusement dans le dictionnaire. Un bidonville, c'est un bidonville. Il existe en France, effectivement, encore des bidonvilles. Et ces bidonvilles, ils ont une histoire, ils ont une réalité.
Jersey nous appelle de Mokolo, dans l'extrême nord du Cameroun. Bonjour Jersey.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct, on vous écoute. Vous voulez vous exprimer, je crois, sur l'aspect technique des toilettes.
En fait, ce n'est pas trop l'aspect technique. Je voulais donner un peu de ma participation à l'occasion de la Journée mondiale des latrines qui se célèbre aujourd'hui.
Oui.
Bon, dans le cadre de cette journée, je travaille pour une ONG qui fait dans l'eau, hygiène et l'assainissement. Mmh. Et dans le cadre de cette journée, nous avons prévu mener des activités de sensibilisation sur la mise en place de latrines par les ménages et en harmonie avec la nature, puisque le thème de cette année, c'est quand la nature nous appelle.
Oui.
Donc, l'idée, c'est de réduire la défécation à l'air libre qui sévit beaucoup dans nombreux pays d'Afrique.
Et alors, quels sont les modèles préconisés pour convaincre la population?
Les modèles préconisés sont des modèles vraiment assez économiques. Il s'agit juste de creuser un trou de 2 mètres et on peut avoir avec un diamètre de 1,50 et fabriquer une dalle amovible qui sera posée et puis faire la superstructure en matériaux locaux.
Oui.
Puisque on regarde, vu le niveau économique des ménages, c'est ce qu'on peut leur proposer. Mmh. Mais l'idée serait de leur proposer dans l'avenir des latrines écologiques qu'on appelle généralement des latrines éco-saines. Mmh. Pour qu'ils puissent valoriser ces dans le domaine de l'agriculture, par exemple.
Mmh. Yves Remeau va intervenir. Merci de nous avoir appelé, Jersey, pour cette journée internationale des toilettes, pour votre témoignage. Yves Remeau, là, quand on, ce que nous décrit Jersey, donc c'est une fosse qui va être vidée ensuite par des vidangeurs. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas négliger les emplois procurés, vous le disiez en début d'émission, par les vidangeurs et puis aussi par ceux qui s'occupent de la gestion des latrines publiques. Quand Jersey nous dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est à terme avoir des latrines sèches écologiques. Quel est l'avantage? Comment ça fonctionne par rapport au système qu'il a décrit?
Alors la toilette sèche écologique, ça commence déjà au niveau de la cabine où on fait ses besoins, en général par un siège disposé pour la séparation des matières. Hein, donc c'est un siège qui est commun aux hommes et aux femmes et qui permet d'avoir d'un côté le stockage de la matière fécale et de l'autre côté le stockage de l'urine. Or ça c'est très important déjà de faire la distinction entre les deux produits, car l'urine, pour autant qu'elle soit hygiénisée par un stockage d'une quarantaine de jours, peut être un fertilisant extrêmement...
Si tant est qu'il y a un réseau de collecte de ces matières.
Voilà. Donc effectivement, une fois qu'on a collecté les urines, on peut les amener sur des champs d'épandage et améliorer les rendements agricoles, puisque effectivement, tout le monde sait que dans l'urine, on a de l'azote, on a du phosphore.
Un message de Mohamed aux Comores nous dit « Chez nous, aux Comores, les toilettes décentes sont chères. Elles ne sont donc pas pour tout le monde. Viennent en plus se rajouter les problèmes d'eau courante. » Est-ce que, Yves Remeau, vous pensez que le manque d'eau est un faux problème au problème des toilettes ou pas, quand vous évoquez les toilettes, la possibilité des toilettes sèches sans eau?
Je suis d'accord avec votre expression qui est tout à fait pertinente, c'est un faux problème. On associe souvent l'eau et l'assainissement parce qu'on a en tête un schéma urbain où effectivement l'eau arrive au robinet et repart dans les égouts. C'est un modèle et c'est tout à fait légitime, et ça n'est pas l'ingénieur hydraulicien que je suis qui le contredira. Par contre, dans les situations qu'on est en train d'évoquer, qui sont principalement rurales et périphériques des grandes villes, effectivement, l'eau n'est pas du tout un facteur essentiel pour l'amélioration de l'assainissement. On peut très bien distinguer les deux problématiques. L'eau, c'est l'eau. L'assainissement, en termes de toilettes sèches, ça n'a pas besoin d'eau. Et c'est effectivement beaucoup plus économique en termes de quantité de matière à charrier. Donc la toilette sèche, effectivement, pour nous, c'est un progrès et c'est une perspective extrêmement intéressante.
On retourne au standard, on donne la parole à Alphonse qui nous appelle de Lubumbashi dans le sud de la RDC. Bonjour Alphonse.
Bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards de voisins.
Et vous êtes le bienvenu chez 7 milliards en direct sur RFI. Alors vous avez construit des toilettes dans votre maison, vous avez un message à faire passer.
Oui, je l'ai fait de façon rudimentaire, pas dans les normes requises, parce que quand je venais d'aménager... je l'avais fait, parce que les sols ici, pour les faire dans les normes requises, c'est coûteux. Mais je l'ai fait quand même de façon à ce que nous évitions d'aller dehors. Quoi.
Oui.
Mais nous avons fait une toilette dehors et une autre dans notre petite maison à l'intérieur,
oui.
Où nous utilisons souvent la nuit seulement pour pisser et tout ça. Mais le reste, nous faisons... dans les toilettes extérieures, mais la profondeur est vraiment moindre pour le vider. Il faut des fois creuser à côté et le vider de façon manuelle avec les seaux pour éviter que ça nous cause des agréments, parce que quand ça déborde dans les toilettes, ça cause des désagréments. Mais au début, quand on a aménagé dans les nouveaux quartiers ici, les gens faisaient leur... on voyait des gens faire déféquer dans des sachets, ils jettent à côté des rénards.
Les fameuses toilettes volantes.
Non, ouais. Il fait que chez lui, dans sa maison, et puis il vient, il jette dans les espaces vides. Je vois que maintenant, les autorités, ma fille vient me rappeler que la semaine passée, ils sont passés dans chaque passé pour demander aux gens pour voilà, bien aménager
vous,
les
vous avez
les
le sentiment, Alphonse, aujourd'hui, que pour vous, c'est une amélioration notable dans votre
oui,
vie
c'est une, oui, ça, c'est
et de la vie de la famille
notable, oui.
Bien que vous ne soyez pas aux normes, comme vous le dites, pour des raisons financières.
Oui.
Merci de nous avoir appelé, Alphonse. Quand on a fait cette émission il y a, je crois, 2 ans sur le même sujet, il y avait encore énormément d'auditeurs qui nous appelaient pour nous dire quel était le problème de dignité humaine que suscitait le fait d'être obligé de se rendre devant tout le monde dans un lieu d'aisance mal défini, pour ne pas dire complètement à l'air libre. On voit bien que les voisins et les voisines sont beaucoup plus sensibilisés. Encore faut-il avoir les moyens de construire des toilettes, parfois avec les moyens du bord, on le comprend bien. Est-ce que vous avez le sentiment, Yves Remeau et Mario Santi, que l'objectif 6 des objectifs du développement durable, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'assainissement, mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030, est-ce qu'on est bien parti ou pas, Yves Remeau?
Là encore, c'est difficile d'être optimiste ou pessimiste. Je dirais qu'il faut être calme. On parlait du Nord Cameroun. Le Cameroun, il y a 4 ans, a élaboré un document de stratégie qui est important. Un document qui s'intitule « Stratégie d'assainissement en milieu rural ». Et ce document, j'en parle parce que j'ai eu la chance de participer à son élaboration, c'était vraiment tout à fait les prolégomènes de ce que peut être ensuite une politique, c'est-à-dire définir des modèles de toilettes, définir des tarifs, définir des modes de subvention, etc. etc. Le problème ensuite, c'est le passage au décret d'application et effectivement à la réalité sur le terrain. Mais la first of all qui est de définir une politique, c'est bien, effectivement, ça existe dans certains pays.
Marion Santi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est d'abord la volonté politique de la mise en œuvre, même s'il y a des volontés politiques affichées.
Oui, il faut aller jusqu'au
bout. De meilleurs montages financiers aussi avec des partenaires privés, avec les communautés, avec l'implication des populations.
Oui, en fait, c'est le témoignage d'Alphonse, c'est vraiment intéressant parce qu'il a parlé énormément des normes. Et finalement, les normes sont issues d'une volonté politique. À un moment, il y a eu une réglementation. Et finalement, on s'aperçoit que la méthode n'est pas forcément la bonne parce qu'on va beaucoup avoir des normes qui vont fixer des objectifs décourageants et qui vont être très contraignantes et qui vont fixer des moyens plutôt que des performances. Donc par exemple, on va dire, voilà, au Burkina, une toilette, c'est tel nombre de briques, telle hauteur, telle largeur, et c'est comme ça. Plutôt que d'autres pays où on va dire, finalement, une toilette, elle doit protéger la santé, donc elle doit être lavable, la dalle doit être lavable, et il faut que la fosse ne pollue pas. J'ai l'exemple par exemple de Madagascar, où là c'est plutôt sur le traitement. On a travaillé donc sur la commune de Tana et des communes périphériques à mettre en place l'intégralité de la filière d'assainissement, donc jusqu'au traitement. Et les stations de traitement devaient avoir des permis environnementaux. Sauf qu'en fait, on nous a répondu « Ah mais si vous ne traitez pas 99,5% de la pollution, eh bien vaut mieux jeter les boues dans la rue ».
Eh bien, ça sera le mot de la fin, cette expérience à Madagascar. Il y a encore du chemin à parcourir hein, pour des toilettes, pour ces 1 milliard de personnes qui n'ont absolument pas accès à des toilettes et 2 milliards et demi qui n'ont pas accès à des installations décentes. Merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Dans quelques instants, c'est chez 7 milliards de voisins, l'Afrique qui gagne.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Portrait de Lucie Mutchoki, maintenant kenyane. Elle a lancé son entreprise de thé, de plantes médicinales. Elle est basée à Nairobi. Elle vend ses productions dans plusieurs villes du pays et à l'étranger. Cette businesswoman décomplexée dirige aussi le consortium panafricain pour l'agro-business et l'agro-industrie. Elle a raconté à Charlie Dupio son Afrique qui gagne.
I was born and brought up in a small town.
Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville dans la région de Nanyuki. Une région reculée près du mont Kenya, au centre du pays.
My father was a doctor.
Mon père était médecin. Il était même le seul médecin de la ville dans laquelle nous vivions. Ma mère était infirmière. J'ai donc pu aller à l'école, faire des études. J'ai aujourd'hui un master en gestion des entreprises.
We also had some business.
D'ailleurs, notre famille gérait aussi une entreprise. Mes parents cultivaient du blé à grande échelle. Nous avions une grande ferme près de notre maison, une ferme de 1000 hectares.
Vous êtes vous-même entrepreneuse. Vous avez monté un commerce en fait d'herbes kenyanes et de thé. Comment vous est venue cette idée-là, cette envie-là ?
Actually, I inherited mine from my late father.
En fait, j'ai hérité des terres de mon père après sa mort. Il m'a laissé de nombreux hectares de plantations de thé. Vous savez, le thé kényan est le meilleur thé du monde. Je dois vous le dire, je ne me vante pas, c'est le meilleur. Des pays comme le Royaume-Uni viennent au Kenya acheter notre thé à bas prix et l'emballent pour le vendre sous le nom de grandes marques comme Lipton et d'autres. Et cela leur rapporte beaucoup d'argent, en vendant parfois 100 fois plus cher que le prix auquel ils ont acheté notre thé. Alors moi, je réalise des produits finis et je vends mon thé dans des emballages très beaux. J'ai une usine de transformation à Nairobi, nous y produisons du thé noir.
Et combien d'employés vous avez ?
I have about 250.
J'ai près de 250 employés qui travaillent dans la transformation et le conditionnement. Sur le terrain, je peux vous assurer qu'il y a plus de 3000 personnes qui travaillent pour moi dans les plantations. Car je ne vends pas seulement au Kenya, j'exporte en Hollande, en Russie et en Suède. Un paquet de thé qui compte 25 sachets, je le vends 10 dollars. C'est cher.
Oh yeah, we are learning now to be like.
Oui, nous apprenons. Nous avons compris comment jouer nous aussi. Vous savez, en Afrique, la plupart du temps, nous n'ajoutons aucune valeur à nos produits. Nous les vendons bruts. Par exemple, au Kenya, quand on regarde nos exportations, seulement 16% d'entre elles concernent des produits transformés avec de la valeur ajoutée. En fait, nous exportons surtout des denrées alimentaires brutes, du thé, du café, des haricots verts.
Vous êtes aussi directrice générale du Pan-African Agribusiness and Agro-Industry Consortium. Donc en fait, c'est une organisation panafricaine pour soutenir l'agro-industrie du continent. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'agroalimentaire du continent africain ?
Let me tell you what we did.
Laissez-moi d'abord vous raconter ce qu'on a fait. En 2010, j'ai rencontré d'autres personnes comme moi, qui pensaient comme moi, à l'occasion d'un forum sur la recherche sur l'agriculture du continent africain. Parmi les participants, il y avait des chercheurs, des gens du secteur privé, des entrepreneurs comme moi. Nous avons discuté et nous avons très vite compris que nous avions besoin d'une plateforme pour nous rassembler. Nous venions de tout le continent, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Sierra Leone, du Rwanda et de nombreux autres pays. Nous représentions 24 pays. À la tête de ce consortium que nous avons créé dans la foulée, nous sommes aujourd'hui près de 30 leaders. En tant qu'entrepreneurs dans l'agroalimentaire, nous faisons face à un certain nombre de problèmes. Ces problèmes sont les mêmes pour tous sur le continent. Une très faible productivité, un manque de financement et un marché local insuffisant pour écouler nos produits. Aujourd'hui, l'agriculture que l'on trouve en Afrique est assez pitoyable. C'est une agriculture de subsistance qui permet à peine de nourrir une famille. Nous, nous voulons revenir dans nos pays et organiser nos agriculteurs en collectif. On peut toujours soutenir des agriculteurs éparpillés par-ci par-là, mais mieux vaut les regrouper. Nous proposons des formations, des sessions de développement de capacités. Nous organisons des journées sur le terrain pendant lesquelles nous réunissons plusieurs fermiers pour leur apprendre à ajouter de la valeur à leur production de manioc ou de pommes de terre. Nous leur donnons aussi de bonnes variétés, celles qui poussent bien. Tous n'ont pas besoin de posséder leur propre machine agricole. Il suffit qu'ils en partagent une au sein d'un regroupement local. Au Kenya, j'ai rassemblé plus de 5000 petites entreprises qui sont devenues membres de ce consortium et 2 millions de fermiers propriétaires de leurs fermes.
Qu'est-ce que c'est pour vous, l'Afrique qui gagne ?
Aujourd'hui, l'Afrique importe 35 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année, essentiellement depuis l'Europe. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour l'Afrique ? Alors que notre continent détient 60% des terres qui ne sont pas encore cultivées sur la planète. Mais l'Afrique est en train de bouger et nous comptons bien transformer notre agriculture en vrai business.
C'était Lucie Michoki, entrepreneuse kenyane. Demain, 7 milliards de voisins, je laisse le micro à Florelle Manda. Elle vous donne la parole sur les enfants des rues. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à Dakar pour une émission en public jeudi prochain au Grand Théâtre à 9h. On parlera de vos études dans les universités, dans les écoles privées. Est-ce que les écoles privées sont vraiment la solution aux universités publiques surpeuplées ? Donc vendredi 9h, Grand Théâtre de Dakar. Et vendredi matin, nous serons à l'université Alioune Diop de Bambay avec des entrepreneurs. Et bien évidemment, on vous laissera la parole. On vous attend nombreux jeudi matin, vendredi matin au Sénégal.